18h33, c'est l'heure du débat des grandes voix avec vous Thierry Dagiral et vos invités. Alors il y a Mickaël Darmon ce soir, Isabelle de Golemin, rédactrice en chef adjointe au journal La Croix, mais Jérôme Sainte-Marie, on l'attend encore.
Encore un peu bloqué dans les embouteillages.
Le président de l'Institut Pauline Vox qui ne devrait pas tarder donc à venir nous rejoindre.
Bonsoir à vous deux pour l'instant. 39-21 pour les auditeurs si vous voulez prendre part à ces grandes voix. Je voudrais qu'on commence par cette polémique BlackRock qui est un énorme fonds d'investissement américain. La filiale française est dirigée par Jean-François Cirilli, ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Raffarin à Matignon. Et cette filiale française est accusée de lobbying, de faire valoir auprès de l'exécutif le régime de retraite par capitalisation. BlackRock s'en défend dans un communiqué. Il a été accordé hier, il faut le rappeler, la Légion d'honneur à Jean-François Cirilli. Et ça se passe très mal, bien sûr, en plein conflit social. C'est quand même une bourde. Dans ce moment-là, personne n'a vérifié avant. Ou est-ce que c'est tout bonnement de la provocation, Isabelle de Golemin?
Connaissant Emmanuel Macron, je me demande si ce n'est pas la provocation. En tout cas, le fait de se dire, évidemment, rationnellement, c'est quand même une fake news, c'est-à-dire que rationnellement, on sait très bien que ce fonds de pension américain n'a rien à voir avec la réforme des retraites d'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'il était intervenu avant sur la loi Pacte, dont l'objectif, je vous rappelle, était de favoriser une épargne long terme, donc notamment ce genre de fonds de pension. Mais en fait, avec la loi sur les retraites aujourd'hui, on est dans une énorme fake news. C'est pas ce fonds de pension-là qui est concerné par la réforme des retraites. Enfin, nos retraites, il s'agit au contraire de rester dans un système par répartition. Ceci dit, c'est vrai que comme cette fake news ne cessait de monter depuis quelques semaines, on voyait bien qu'il en était question, etc. Ouais. Il aurait été plus sage de ne pas accorder cette Légion d'honneur. Mais à mon avis, c'est un peu sa manière, c'est-à-dire qu'il s'est dit même pas peur. Quoi.
Ouais. Alors, pour être complet, il faut vous dire que Jean-François Cirilli a réagi, a parlé à l'AFP ce soir. Il assume n'avoir pas cherché à influencer le gouvernement ni sur la réforme des retraites, ni sur la loi Pacte. Voilà. C'est ce qu'il vient de déclarer à l'AFP. Donc. Mickaël Darmon.
Oui, on est quand même typiquement face à cette espèce de la maladie de la polémique française. C'est-à-dire que on vient d'établir, et très justement, que ça n'a rien à voir avec les retraites. On vient d'établir que, effectivement, on n'imagine pas un monsieur Cirilli demandant, il y a deux semaines, qu'on lui donne la Légion d'honneur pour embêter les grévistes ou provoquer donc le gouvernement. Que s'est-il passé, en fait, si on regarde ça un peu calmement? Il y a trois sessions de Légion d'honneur, 14 juillet, Noël et Pâques. Oui. L'instruction concernant la montée en grade, parce qu'il est déjà décoré, c'est une montée en grade dans le grade de la Légion d'honneur de Jean-François Cirilli, a été lancée à partir de l'été jusqu'à maintenant. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'effectivement, ça intervient dans un moment où on est en plein conflit social. Ça peut provoquer une sorte de choc de considération, mais ça raconte aussi qu'au moment où, parce que c'est une proposition d'Édouard Philippe, au moment où cette proposition est instruite, oui. Il y a une perception très lointaine d'un éventuel conflit. Ça raconte à quel point il n'y a pas eu de captation de fait d'envisager qu'on serait en plein conflit à la fin de l'année. Ouais. C'est ça que c'est intéressant.
On n'avait pas prévu ce qui se passe. C'est
exactement.
Ça. Isabelle de Golemin.
Et alors, moi, ce qui m'a amusé, là, c'est l'expression d'Olivier Faure, le porte-parole du PS qui dit.
Le porte-parole du PS.
Pour Olivier Faure.
Grand patron.
Qui parle du côté obscur. Il dit, voilà, on est du côté obscur des retraites. Et là, je me dis, c'est vrai qu'on est en plein fantasme, quoi. Et que les hommes politiques devraient faire attention à rentrer comme ça de polémique en polémique. Les Français qui déjà n'y comprennent rien à cette retraite vont en plus, là, alors avoir tendance à tout confondre. Les fonds de pension, en plus, c'est américain, black, oh là là, c'est le noir, on est dans l'obscurité. Non, mais c'est quand même un peu embêtant. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de paroles rationnelles sur cette histoire des retraites. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe depuis quelques jours, là. C'est que tout est en train de partir, comme ça, dans des espèces de fantasmes, que chacun se rejette les uns sur les autres. Et à mon avis, c'est pas une bonne manière de faire.
Et je salue Jérôme Sainte-Marie, qui est là, qui nous a rejoint.
Bonsoir.
La circulation. Les choses, c'est difficile.
En effet.
Merci d'être là. Ça fait réagir en tout cas cette histoire. On va aller au standard 39-21. Bonsoir Philippe.
Bonsoir. Et meilleurs voeux à la station.
Et très belle année à vous également. Merci Philippe. On vous écoute.
Bah moi là, je veux réagir là par rapport à cette histoire là qui tombe à brûle-pourpoint comme par hasard après le discours de Macron et la réforme en cours destiné à donner encore plus aux patrons et encore moins aux travailleurs. On apprend qu'un patron d'une stock option américaine va avoir la Légion d'honneur. Ça tombe vraiment à brûle-pourpoint et ça prouve bien que Macron est toujours le président des patrons.
Merci, merci Philippe. Mais c'est ça, vous avez raison. Vous entendez en tout cas, Jérôme Sainte-Marie, ce que dit Philippe. Ça accentue cette crainte finalement des Français.
Oui,
qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Cette crainte n'est pas aussi irrationnelle qu'on veut bien le dire. Il faut bien voir que dans la réforme des retraites, il y a un point qui est très mystérieux. C'est pourquoi est-ce qu'on plafonne désormais à 10 000 euros de revenus l'accès au système général des retraites? Par définition, ceux qui gagnent plus de 10 000 euros de revenus pourrait contribuer largement à l'équilibre financier du système.
Ils vont y contribuer, hein. Il y a une taxe de solidarité qui est mise sur leur...
De 2,8.
Oui. Mais sinon, s'ils contribuent à la retraite, ça veut dire... Enfin,
au lieu de 20%.
À la répartition, ça veut dire qu'après, ils touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans tous les pays européens, c'est le cas pour les gros salaires qui ne sont pas dans ce système-là.
Ça veut dire qu'on nous parle d'un problème d'équilibre financier du système des retraites et on fait sortir justement ceux qui vont apporter 28% de revenus relativement importants. C'est bien sûr... C'est pas un cadeau qu'on leur fait, d'ailleurs, assez haut revenu. Ouais. En réalité,
on leur demande de contribuer.
Thomas Piketty s'est largement trompé là-dessus. C'est pas un cadeau fait à ses actifs et ses futurs retraités. Par contre, c'est l'ouverture d'un marché considérable pour effectivement les produits de retraite privés. Ça correspond également à l'évolution globale effectivement du quinquennat, la privatisation d'Aéroports de Paris, la privatisation de la Française des Jeux, c'est-à-dire la restriction continue de ce qui relève du domaine du public au profit de ce qui relève du domaine du privé, ce qui intéresse naturellement les fonds de pension.
Et Mickaël Darmon, en termes de communication, ça vient encore une fois souligner les critiques faites à Emmanuel Macron d'être pieds et mains liés au monde de la finance.
Oui, mais il faut quand même rester calme.
Je ne parle pas à vous, bien évidemment,
à cette hystérie ambiance depuis deux jours, cette polémique qui n'a pas lieu d'être. C'est ça qui est affligeant, je dois le dire quand même. C'est parce que cette réforme des retraites qui vient d'être qualifiée comme étant une opération financière, c'est une demande de la gauche, c'est une demande de la CFDT. La réforme par points, c'est la grande demande de la CFDT. Oui. En quoi est-ce une opération financière capitalistique? On ne sait pas, c'est pas une réalité. Mais ce qui se passe autour de BlackRock, à l'instant, depuis quelques jours, je reviens à cet angle-là, pourquoi tout le monde se précipite vraiment et fait feu de tout bois en disant bah ouais, ça montre bien que Macron derrière il a un agenda noir, c'est franchement n'importe quoi, parce que Cirelli c'est un profil particulier qui lui est dans une logique de monter en grade dans ça une fois de plus dans la Légion d'honneur et il a été certes posé dans ce dossier très en amont, ce qui montre, et c'est la seule maladresse peut-être effectivement du gouvernement et d'Edouard Philippe, puisque c'est lui qui le propose, c'est de ne pas avoir envisagé il y a 6 mois qu'il y aurait un problème à la fin de l'année avec les retraites. Et donc de ce point de vue-là, il instruit et il permet à Jean-François Cirelli de monter en grade, franchement, dans la Légion d'honneur.
Je sens Jérôme.
Donc, je pense qu'il faut arrêter le complotisme.
Ouais. Jérôme, vous êtes en désaccord.
Pour une fois, je suis en désaccord total avec Mickaël Darmon.
C'est le début.
Il n'y a aucune forme de complotisme, mot qui devrait d'ailleurs être banni parce qu'il veut dire tout et non son contraire. Il n'y a aucune forme de complotisme dans le fait d'essayer de prendre au sérieux les propos du président de la République durant sa campagne présidentielle, durant ceux de ses conseillers, etc.
Il y a un complotisme quand on dit que BlackRock est à l'origine de la réforme des retraites. C'est ça le complotisme.
La question, c'est ça
qui est embêtant quand même.
Essayez de percevoir, si vous voulez, effectivement, pourquoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a cette polémique? Pourquoi il y a cet affolement sur cette histoire de remise de décoration? Parce qu'on voit bien qu'on c'est des gens qui investissent en France, etc. Pourquoi pas? C'est que là, les gens comprennent. Ça met, si vous voulez, une image bien précise sur des phénomènes que l'on voit se développer depuis 2 ans, qui ne sont pas tellement compréhensibles. Il y a quand même toute une polémique qui n'est pas éteinte sur la privatisation de sociétés rentables, sur la privatisation d'aéroports de Paris.
Ça n'a aucun rapport avec BlackRock.
Ah mais bien sûr que si, parce que ça permet justement d'ouvrir aux fonds de pension de nouveaux marchés. Ça c'est la base.
Allez, on ferme.
C'est la base du capitalisme.
On ferme le dossier BlackRock.
On parle des retraites.
On ferme le dossier BlackRock. On se retrouve dans un instant. On va continuer à parler de cette réforme et de ce que pourrait annoncer l'exécutif la semaine prochaine. Négocier. À tout de suite.
Vous écoutez votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral jusqu'à 20h sur Europe 1. Ah. 18h43, la suite du débat des grandes voix dans votre grand journal du soir sur Europe 1 avec à vos côtés Thierry Dagiral, Isabelle de Golemin, rédactrice en chef adjointe au journal La Croix, Mickaël Darmon et Jérôme Sainte-Marie, le président de l'Institut Pollingbox.
Et ça débat, et ça débat. On va revenir à présent sur cette réforme des retraites. Je ne sais pas si vous avez écouté l'interview de Sonia Mabrouk ce matin dans la matinale de Mathieu Béliard. Interview passionnante de Pierre Ferracci, proche d'Emmanuel Macron, expert en questions sociales et très cash. On l'écoute.
L'opinion publique est globalement remontée contre lui. Bon, en même temps, il voit très bien que le mouvement peut s'essouffler. Je crois qu'il aurait tort de ne compter que sur cet essoufflement. Il faut éviter que, comme pour le mouvement des Gilets jaunes, l'exaspération, encore une fois, reprenne une autre forme demain et s'exprime notamment à l'occasion des élections présidentielles de 2022.
Voilà, c'est dit. Emmanuel Macron a tort de ne pas compter sur l'essoufflement, de ne compter plutôt que sur l'essoufflement du mouvement. Jérôme Sainte-Marie.
Le raisonnement qui est tenu là à l'instant est celui qui a été développé par le sociologue de gauche Michel Vivorca, qui effectivement considère que quelle que soit l'issue de la réforme des retraites, ça risque de profiter à ce qu'il appelle, moi c'est pas mon vocabulaire, mais ce qu'il appelle des forces populistes lors de la prochaine élection présidentielle. Au fond, la plupart des réformes des retraites ont été passées avec succès. Michel Rocard avait dit que dans le dossier des retraites, il y avait de quoi faire sauter 10 gouvernements. Il s'était une nouvelle fois trompé, puisqu'effectivement aucun gouvernement n'est trompé là-dessus, et notamment en 2010, il y avait eu une importante réforme des retraites menée par François Fillon et Nicolas Sarkozy. Les manifestations avaient été plus importantes que celles qu'on constate actuellement. L'opposition de la population à une réforme qui consistait en fait à passer de 60 à 62 ans pour l'âge de départ à la retraite, eh bien, cette opposition s'est exprimée dans les sondages encore plus fort qu'aujourd'hui. Eh bien, le gouvernement était passé, mais bien sûr, après, ça se solde aux élections qui suivent. Par exemple, ça avait largement contribué à la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012.
Mais ce que dit Pierre Ferracci, c'est aussi que le mouvement des Gilets jaunes a été mal calmé, il y a cette colère sociale, à force finalement de mal éteindre les feux. Ça peut être très compliqué, Isabelle de Golemin.
Oui, c'est vrai qu'il faudrait quand même retrouver dans ce pays le sens du compromis. C'est-à-dire que le compromis, il faut que chacun y mette une petite part. Donc on sait que du côté de la CGT, de toute façon, le compromis n'est pas possible parce qu'il y a le problème des régimes spéciaux. Donc effectivement, c'est le problème de la CFDT. Et le compromis, c'est sur l'âge pivot, tout le monde le dit, ouais. Ça fait des semaines qu'on le dit, donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut arriver à négocier. De fait, Macron peut choisir de ne pas négocier sur l'âge pivot sous prétexte de maintenir son équilibre financier, mais c'est dangereux parce qu'à mon avis, c'est pas simplement aux élections, mais même avant les élections, on peut avoir encore un retour de flamme. C'est-à-dire qu'il faut pas quand même que les gens perdent la face. Ça serait embêtant que cette retraite passe finalement par lassitude et qu'il y ait une partie de la France qui perde la face, et après, ça peut revenir comme un feu de cheminée.
Alors justement, l'âge pivot, parlons-en. Prochaine négociation le 7 janvier. Quelles sont les pistes, Mickaël Darmon? Quelles sont les portes de sortie possibles?
La porte principale qui a été ouverte le soir du 31 décembre par le président de la République, c'est celle qu'attend la CFDT, c'est-à-dire tout le travail sur la pénibilité, sur la reconnaissance des tâches difficiles, c'est la formule employée, et qui au fond va créer de régimes spéciaux, va amener à des statuts spécifiques et dérogatoires, donc qui seront certes considéré dans un régime universel, mais avec quand même une spécificité concernant certaines tâches. C'est ce que demande la CFDT depuis le début. C'est peut-être une voie de passage. Il faut noter, parce qu'on écoute beaucoup ceux qui parlent, mais il faut aussi écouter ce qui ne se dit pas. La CFDT est la seule centrale à ne pas avoir réagi au vœu de Macron.
Au vœu de Macron, exactement.
Donc, ça veut dire que ça travaille.
Ouais.
Ça veut dire que ça va être vraiment le sujet qui va être sur la table. Maintenant, le problème, c'est que
ça veut dire que c'est négocié en ce moment.
Bien sûr, ça n'a jamais arrêté de négocier.
Même
d'ailleurs, apparemment, ils se rencontrent même dans des cafés, dans des endroits un peu improbables. Enfin, le jour où on pourra raconter peut-être l'histoire secrète de ce conflit, il y aura encore beaucoup de choses nouvelles à apprendre. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que en réalité, c'est là le problème du président de la République, c'est que même s'il réussit à calmer la CFDT, est-ce que ça va suffire? Non, parce que la CGT ne demande pas à ce que la CFDT soit calmée. La CGT, elle, et qui travaille et qui veut le bloquer, veut étendre le conflit, appelle maintenant à ouvrir un front sur l'énergie, veut être dans une logique de perturbation politique. C'est là où on est dans la mutation de ce conflit, c'est qu'Emmanuel Macron rentre dans une logique un peu thatchérienne, je dirais, pour faire peut-être plaisir à Jérôme Sainte-Marie, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'en réalité, il veut la grande grève mythique, comme celle des mineurs, où on aura dit avant, après. Et là, effectivement, il fait tapis et il pose la suite de son quinquennat.
39-21, je voudrais qu'on donne la parole à Chantal de Versailles. Bonsoir Chantal.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir
soyez.
À tous et à toutes et mes meilleurs voeux pour 2020.
À vous également
Moi, je
Chantal,
trouve absolument inadmissible que la France soit bloquée par une minorité sectorielle, alors que tout le monde est pour un régime universel, sauf quelques-uns. Je trouve ça inadmissible. Il y a des tas de gens qui vont déposer la clé sous la porte parce qu'ils ont en décembre, ils n'ont pas pu travailler. Je trouve ça scandaleux. Voilà, c'est tout.
Merci Chantal, merci de nous avoir appelé au 3921. Jérôme Sainte-Marie.
Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, les trois quarts des Français sont favorables à l'abolition des régimes spéciaux. C'est un des paradoxes de la situation, mais cependant, une majorité des Français soutiennent le mouvement, soutiennent la grève. Ouais. Pourquoi ? Parce que la plupart des Français...
Ne comprennent pas, ont peur, c'est la crainte ?
Mais c'est pas qu'ils comprennent pas, hein. C'est parce qu'ils ont pas peur, ils ne sont pas favorables à la réforme qu'on leur propose. Ouais. Ce sont des individus rationnels, même si effectivement le président de la République a utilisé le mot crainte, angoisse, peur, pour psychologiser l'opposition qu'il recevait. Mais vous avez 54% des Français qui expriment soutien ou sympathie pour le mouvement de protestation contre cette réforme. Si vous regardez ceux qui sont réellement concernés, c'est-à-dire les actifs, là, c'est une majorité beaucoup plus forte. Et ceux qui sont effectivement favorables à cette réforme, dans une proportion des deux tiers, ce sont les retraités, pour l'excellente raison qu'ils ne sont pas concernés.
On a le sentiment quand même que cette réforme, elle est mal comprise. Isabelle de Golemont.
Oui, c'est, à mon avis, c'est le problème. En tout cas, c'est sûr que je pense que la plupart des Français, ils sont contre parce qu'ils ont le sentiment que c'est une réforme injuste. Ouais. Alors, c'est une réforme qui n'est pas juste pour tout le monde, n'est pas plus juste pour tout le monde, mais en tout cas, dont certains seront gagnants. Et le gouvernement a été incapable d'exprimer ça et d'expliquer ça. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème. Et sinon, c'est vrai que je rejoins le point de vue par rapport à cette espèce de manière que Emmanuel Macron a de faire un conflit entre lui et la CGT. C'est vrai que c'est dangereux, on voit bien que c'est ça qu'il veut faire, un peu comme il a voulu politiquement se mettre contre Marine Le Pen, et là il joue quand même un petit peu avec le feu.
Ouais. Michel Darmon.
Il re-scénarise le clivage de son programme présidentiel, de sa campagne et de son propos, comme on disait, c'est-à-dire qu'en réalité il oppose les progressistes aux conservateurs, cette fois-ci les conservateurs étant les syndicats arc-boutés sur les privilèges liés aux régimes spéciaux, partant donc du fait que les Français sont pour donc effectivement leur disparition. Mais là on se heurte une fois de plus à la problématique de la méthode. Emmanuel Macron nous a tellement parlé de méthode pendant la campagne en disant que tout n'était qu'un problème de méthode, que tout avait été raté dans la méthode, et voilà qu'il est un peu pris au piège d'une réforme qui a été au fond préparée trop rapidement, sans grande réflexion, et qui aboutit à la confusion, alors que tout devait être simple, selon les mots du président, qui aboutit à la confusion générale et à cet enquistement du conflit.
Rapidement, Jérôme Sainte-Marie.
Oh bah, je crois que pour comprendre l'action d'Emmanuel Macron, il faut écouter Emmanuel Macron, par exemple, écouter durant les vœux. Il a exprimé très clairement le fait que ce conflit, que lui ne céderait rien au pessimisme. Il refait en fait ce qui lui avait réussi lors des conflits sur le code du travail il y a de cela 2 ans, ce qui lui a permis de redevenir populaire, puisqu'effectivement, on voit, d'ailleurs, il n'est pas si impopulaire que ça actuellement, 40% de popularité, parce qu'il reçoit le soutien dans ce conflit face à la CGT et à d'autres. Il reçoit le soutien d'une bonne partie des électeurs de François Fillon. Donc il y a un vrai calcul politique et la volonté d'en faire un symbole pour aller beaucoup plus loin dans des réformes libérales.
Dernier point, très très rapidement, Emmanuel Macron a dit lors de ses vœux qu'il voulait que ça aille vite, renégocier la pénibilité, l'âge pivot, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps de négociation.
Mais là aussi, c'est le paradoxe d'un président de la République qui nous a parlé du temps long, qui a inscrit son propos en commençant par parler de Notre-Dame et en terminant par parler de Notre-Dame, et en disant la France est un pays de bâtisseurs, inscrit dans le temps long, sauf que lui, il a un temps court, il a le temps du quinquennat, il y a maintenant une élection tous les 9 mois, et de ce point de vue-là, effectivement, il est dans une course contre la montre avec son propre programme.
Michel Darmon, Isabelle de Golemont, Jérôme Sainte-Marie pour les grandes voix ce soir. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci.
À suivre, Thierry Dagiral.
Ah non, on a encore un peu de temps.
On a encore un petit peu de temps.
Alors continuons.
Oui. Bon, alors on va continuer le débat des grandes voix.
On a encore un peu de temps, mais non, mais c'est Michael Darmon qui voulait reprendre la parole. Michael, dites-moi, alors.
Eh bien, effectivement.
Je pensais qu'il fallait.
La difficulté, justement, du président de la République, quand il pose son propos donc, au 31 décembre, c'est à la fois d'être dans une logique où il veut montrer qu'il ne lâche rien vis-à-vis donc de ce conflit. Ouais. Il y a cette phrase clé où il demande au chef du gouvernement de trouver donc les voies d'un compromis, c'est-à-dire que cette fois-ci, il a bien compris que, alors que l'année dernière, c'était lui qui était en première ligne face aux Gilets jaunes, là, il met en avant et au fond resacralise, on va dire, la répartition classique dans la Ve République avec un chef de gouvernement qui mène les négociations et lui qui est dans l'impulsion derrière, parce qu'il sait également, alors qu'il vit le deuxième hiver consécutif de crise, il sait que cette fois-ci, c'est peut-être moins violent, mais c'est beaucoup plus dangereux. Parce qu'en réalité, il y aura une infusion politique. Ça va se terminer dans les urnes, ce conflit. Il va se terminer, on va arriver avec l'élection municipale. Et bien évidemment, il faut être déjà conscient que ce qui se passe aujourd'hui va transformer dans une certaine partie la campagne des élections municipales.
Isabelle de Golemin.
Oui, en même temps, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit l'incapacité aujourd'hui de l'opposition, hein, qu'elle soit de gauche ou d'extrême droite, à reprendre l'opposition à la réforme et à finalement engranger le bénéfice politique. Donc je ne sais même pas si ça va se traduire politiquement. Mais quelque part, c'est encore plus dangereux parce que ça se retraduira dans la rue.
Oui, absolument. Et puis il y a des mécaniques qui se mettent en place. Hein. Regardez la manière dont, effectivement, pour la première fois, Marine Le Pen s'est explicitement placée aux côtés donc, des grévistes. C'est assez important pour le noter. La manière dont Jean-Luc Mélenchon l'a remarqué. Les transferts électoraux qui peuvent exister.
En même temps, Mélenchon, à ce moment-là, il est quand même
non,
très
mais
bas.
Certes, mais en tout cas, il a pris date politiquement. Et peut-être qu'effectivement, des mécaniques se mettent en place dans cette partie de l'électorat.
39-21, je voudrais qu'on écoute Philippe qui vient de nous contacter. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir à tous et meilleurs voeux à tous également.
Merci, à vous également. On vous écoute, Philippe.
Oui, moi cette réforme universelle au départ j'étais pour, parce qu'effectivement le terme universel me plaisait bien, mais une retraite universelle avec énormément de spécificités, pour moi c'est plus une retraite universelle. C'est, je trouve, abominable. Moi je suis chef d'une petite entreprise, alors voilà, on a les félicitations de monsieur Édouard Philippe de réussir à travailler dans ces conditions, etc. Ces félicitations, c'est bien gentil, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de souffrir énormément. Ça fait 2 ans, soi-disant, qu'ils négocient. Moi, je remettrais tout à plat. Je suis pas du tout cégétiste, hein. Mais je remettrais tout à plat. On rediscute et on recommence. Mais là, ça devient, franchement, ça devient très, très difficile et angoissant.
Merci beaucoup.
Et ça risque de mal finir.
Merci, bon courage à vous, Philippe. Jérôme Sainte-Marie.
Oui, ça, c'est un des enjeux politiques importants, savoir à qui est imputé le blocage actuel. Avant les fêtes, il n'y a pas eu vraiment de sondage là-dessus depuis 2 semaines, c'était d'abord imputé au gouvernement. Et donc, effectivement, s'il y a un redémarrage du conflit avec, par exemple, les enseignants, etc., le calcul fait par le pouvoir peut devenir un peu douteux dès à court terme. À plus long terme, et là je reprends effectivement ce qui vient d'être dit par Michel Darmon notamment, effectivement, si même une victoire pourrait sur le front syndical pourrait être politiquement une victoire à la Pyrrhus, puisqu'un certain nombre de personnes qui ont voté au second tour pour Emmanuel Macron en 2017 se sentiraient humiliées et en conserveraient le souvenir.
Merci à vous trois, cette fois-ci c'est la fin. Un grand merci. Bonne soirée à vous deux.
Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Avec dans un instant le journal de 19h avec une immersion assez exceptionnelle, vous allez voir, dans un bloc opératoire de l'hôpital Necker à Paris, où l'opération a été réalisée par un robot.
Merci de nous écouter.